France Culture.
This is side one, track two of tape number five, continued.
Конечно, у нас еще не использовано возможность более расширить.
Je vais devoir dicter ces mémoires sans archives. Il me serait difficile d'accéder à celles-ci. Disons que dans ma situation, c'est impossible. Je souhaite simplement dire la vérité, fait à l'appui.
Nikita Khrouchtchev.
Après la mort de Staline, nous avons découvert des archives du parti dont nous n'avions pas connaissance. C'est à ce moment-là que nous avons perdu notre foi en Staline. Aussi longtemps qu'il est resté au pouvoir, tout ce qu'il faisait ou inspirait nous paraissait absolument et incontestablement juste. C'est seulement après sa mort que nous avons commencé à poser un regard critique sur le passé. Et, dans la mesure où c'était possible, à confronter nos souvenirs avec ce qui figurait dans les archives.
Grande traversée, devenir Staline.
Становление Сталина.
Premier épisode, la mort d'un dictateur.
Tous les radios, n'importe quelle ville, village, ont annoncé sa mort. Et c'était les gens qui pleuraient.
Marie Chartron, Diffie Mariani.
Les rues étaient pleines de monde. On était très en deuil.
Joseph Vissarionovitch Djougachvili, dit Joseph Staline, est mort le 5 mars 1953 dans sa datcha de Kountsevo, à l'ouest de Moscou.
Oui, j'ai pleuré.
Jacques Duclos.
Je m'étais rendu compte de la tâche immense qui pesait sur ses épaules, des responsabilités énormes qu'il avait à assumer.
Je me souviens quand même de la part de ma mère.
Irma Jajanachvili.
Elle me racontait quand Staline il est mort. Elle a traversé le pont sans toucher la terre parce que c'était la foule qui l'emportait.
Les villes et les villages de notre pays sont plongés dans un deuil inconsolable.
On pleurait presque dans le monde entier. J'ai lu que les gens communistes français, ils tombaient dans la Seine parce qu'ils pensaient qu'on ne peut pas vivre sans lui.
Nous nous apprêtons à parler de Joseph Staline, mort et vif. Mais comment raconter Staline ? Nous sommes face à un personnage qui est resté aux commandes pendant près de 30 ans et qui a incarné le visage du pouvoir absolu en Union soviétique pendant près de 20 ans. Qui a marqué à la fois l'histoire du monde et celle de millions de soviétiques jusqu'au plus profond de leur intimité, laissant derrière lui un héritage qui bruisse encore. Il est partout et traverse tout. Et pourtant, il n'a rien laissé de véritablement intime qui pourrait nous permettre de faire la netteté sur lui, de comprendre les ressorts intimes de ses actes. Pas de journal personnel ou de mémoire, peu de lettres. En somme, il a soigneusement évité de s'épancher.
This is side two, track two of tape number one, continued.
Pour tenter d'esquisser un portrait, il faut se plonger dans les archives, bien sûr, mais aussi dans les souvenirs et les témoignages de ses contemporains. Cette voix, donc, c'est celle de Nikita Khrouchtchev, celui qui a succédé à Joseph Staline à la tête de l'URSS, comme premier secrétaire du comité central du Parti communiste. Arrivé en politique dans les années 1920, il a grimpé les échelons du parti jusqu'à rejoindre le cercle proche de Staline des années 30 à sa mort. À l'époque de cet enregistrement, Khrouchtchev ne dirige plus rien. Il a été poussé à la démission à l'automne 1964, à 70 ans, au bénéfice de Léonid Brejnev. Effacé de l'espace public, il est un demi-paria relégué dans sa datcha à Petrovo-Dalneïe, un village le long de la rivière Moskova, à une trentaine de kilomètres de Moscou à vol d'oiseau. Et il est profondément déprimé. Pratiquement jusqu'à son décès, il dicte quotidiennement ses mémoires sur un enregistreur à bandes de fabrication allemande, Uhr. Les originaux des bandes seront confisqués par le KGB en 1970. Mais c'était compté sans un jeu de copies, exfiltrées et envoyées aux États-Unis quelque temps auparavant, dans des circonstances pour le moins rocambolesques, avec l'aide d'un certain Victor Louis, mi-journaliste, mi-espion. Nikita Khrouchtchev parle, il parle, s'épanche, il raconte tout. Enfin, tout ou presque, bien entendu.
После войны тут уже говорить нечего. Уже во время войны Берия стал членом Политбюро. Он не был до этого. Маленков стал членом Политбюро. Маленков тоже набрал.
Staline est tombé malade en février 1953. Malenkov, Beria, Bulganin et moi, nous étions restés avec lui à sa datcha le samedi soir après une séance de cinéma au Kremlin. Comme d'habitude, le dîner avait duré jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Staline, assez ivre, s'était montré d'excellente humeur. Au moment du départ, il nous avait raccompagnés jusqu'au vestibule en plaisantant bruyamment. Il m'a piqué gaiement le ventre de son doigt en m'appelant Nikita avec l'accent ukrainien, comme il le faisait toujours quand il était joyeux. Après cette séance, nous étions donc rentrés heureux chez nous, car rien n'y avait mal tourné. Les dîners chez Staline ne se terminaient pas toujours sur une note aussi agréable.
Tout va aller très vite, ce début mars 1953.
Emilia Kustova, historienne.
Le 28 février est un samedi. Staline invite, ou peut-être il faudrait dire plutôt convoque, ses quelques proches qui sont invités à venir dîner chez lui dans sa datcha. A priori, Staline n'est pas particulièrement, ne se montre pas particulièrement fatigué ou voilà. Et puis, il le laisse seul au petit matin. Ils repartent.
Le lendemain, dimanche, en principe jour de congé, j'étais sûr que Staline nous téléphonerait pour une réunion quelconque. Le soir, j'attendais l'appel d'un instant à l'autre et retardais le moment de me mettre à table. Après le repas, toujours pas de coup de téléphone. Je n'arrivais pas à croire que toute une journée de repos s'écoulerait sans qu'il nous convoque. Mais non, il ne téléphonait pas.
La journée du 1er mars ne se passe pas comme d'habitude, c'est-à-dire que Staline, qui dispose de très vastes espaces à l'intérieur de cette datcha près de Moscou, il a ses rituels, il est entouré de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de personnes qui le servent et qui assurent le fonctionnement de ce domaine, mais en même temps il est assez autonome dans son grand espace, donc une immense pièce qui fait jusqu'à, je crois, 75-80 mètres carrés où il y a la partie chambre, partie bureau, où il peut travailler en toute autonomie. Et il y a aussi la sonnette qu'il ne fait pas fonctionner ce jour-là.
Soudain, le téléphone a sonné. C'était Malenkov. Il m'a dit « Écoute, les gars de la Tchéka viennent de m'appeler de la datcha de Staline. Ils pensent que quelque chose lui est arrivé. Nous ferions mieux d'y aller. J'ai déjà prévenu Beria et Bulganin. Part tout de suite, ça vaudrait mieux. »
Ces gardes du corps commencent à s'inquiéter un peu, mais en même temps, l'atmosphère de peur est telle que personne n'ose aller toquer à sa porte. Parce que s'il ouvre, quelle sera sa réaction si quelqu'un ose venir le déranger?
Au petit matin, l'un d'entre eux va tout de même ouvrir la porte, va découvrir Staline allongé par terre.
Il trouve Staline couché par terre dans une mare d'urine.
Une position extrêmement humiliante pour Staline. Or, il semble dormir à ce moment-là.
Et à partir de là, l'absurdité commence.
Les gardes du corps sont très... Ils savent quoi, comment faire. Ils ont peur que s'il le réveille et qu'il va s'apercevoir qu'ils l'ont vu dans cette position, qu'est-ce que ça va faire ensuite pour eux ? Donc, ils essaient de se reposer sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ils contactent leur supérieur et comme ça, ça monte. Et ensuite, on prévient l'entourage, donc le plus proche de Staline qu'il avait quitté 24 heures plus tôt.
Et il va se passer... Je sais plus si c'est 13 ou 17 heures avant qu'un premier médecin examine Staline. Parce que c'est là qu'en fait arrive une sorte de vérité poétique où Staline lui-même devient victime de la terreur qu'il a engendrée.
Oleg Klavniuk, historien.
On fait tout simplement comme s'il dormait. Les membres du Politburo ne voulaient pas endosser la responsabilité. Tout le monde avait peur. Personne n'osait s'approcher de lui. C'est un moment très révélateur du système qu'il avait créé. Un système basé sur la peur où il n'y a pas d'initiative possible. Et finalement, ce système s'est retourné contre lui. Autrement dit, personne ne lui a porté secours. Lorsqu'après de nombreuses heures, les membres du Politburo, ses proches collaborateurs ont finalement osé venir le voir. Ils se sont approchés avec une extrême prudence. Un détail révélateur, Malenkov a même enlevé ses chaussures pour ne pas faire de bruit.
Et Beria dit « Oh, le camarade Staline dort paisiblement. Bon, mettez-le sur son sofa, et puis, mais ne le réveillons pas. »
Françoise Thom, historienne.
Donc il est resté sans soins médicaux pendant plus d'un jour, hein, semble-t-il.
Et alors pourquoi pas de médecin ? Ben, pas de médecin parce que ça vous engage d'être celui qui a choisi le médecin qui va s'occuper de Staline potentiellement mourant. Surtout si le médecin ne sauve pas Staline, ça vous engage.
Fabien Nury, scénariste.
Or, dans les mois et années qui ont précédé, on vient de terminer à peu près ce qu'on a appelé l'affaire du complot des blouses blanches. C'est-à-dire une purge stalinienne, féroce, de tous les meilleurs médecins de Moscou. Et donc le problème, c'est que si on a accusé les médecins d'avoir voulu assassiner Staline, alors on ne peut plus les convoquer, ceux-là. Et donc il faut une décision collective, et il faut qu'il y ait plusieurs médecins, et il faut que toutes les personnes présentes aient signé la liste de plusieurs médecins, pour que comme ça, personne ne puisse accuser autrui. Ce qui fait que le premier médecin qui se pointe pour examiner Staline, il arrive à 17h, je crois, un truc comme ça. Et pendant ce temps, la personne s'en occupe.
Les médecins examinent Staline pour la première fois le matin de 2 mars, donc 24 heures à peu près après son AVC.
Le professeur Loukomski s'est approché de lui avec une prudence infinie. Je savais ce qu'il pensait. En tremblant nerveusement, il a touché la main de Staline comme s'il s'agissait d'un fer brûlant. Beria a aboyé grossier. « T'es médecin ou non ? Vas-y, prends-lui la main correctement !» Le professeur Loukomski nous a déclaré que le bras droit ne remuait plus. La jambe aussi était paralysée. Staline ne pouvait même plus parler. Il était dans un état extrêmement grave. On l'a déshabillé et ramené dans la grande chambre où on l'a installé sur le sofa où il dormait habituellement.
Alors après, il fallait un respirateur artificiel. Alors on avait commandé le Neck Plus Ultra. Alors donc, ils font venir le respirateur artificiel et c'est une machine américaine dont elle marche sur du 110 volts et pas du 220. Donc il faut aller trouver un générateur, mais le générateur fait trop de bruit, donc ça dérange, c'est pas digne de... Et donc finalement, ils arrivent quand même à brancher le respirateur. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on annonce ? Est-ce qu'on annonce un peu ? Est-ce qu'on annonce pas ? Et puis ça y est, là, les couteaux sont sortis. Qui contre qui ? Bon, il va s'en sortir ou ils vont pas s'en sortir. Les médecins sont très rapidement très pessimistes. Et donc là, commence la course au pouvoir, tout en sachant qu'on est censé tout faire pour qu'ils vivent.
Les médecins ont organisé un tour de garde auprès du malade. Nous, les membres du bureau du Présidium, on a fait de même afin d'assurer une garde 24 heures sur 24 à son chevet. La répartition des tours s'est faite de la manière suivante. Malenkov et Beria ensemble, Kaganovitch avec Voroshilov et Bulganin avec moi. On voyait bien que Beria et Malenkov avaient organisé les veillées. Ils s'étaient réservés celles de jour et nous laissaient celles de nuit à Bulganin et moi. Je reconnais que j'étais complètement bouleversé. J'avais beaucoup de peine en voyant qu'on perdait Staline.
Beaucoup de peine, peut-être, ou peut-être pas. L'homme qui meurt entouré de ses proches collaborateurs au printemps 1953 est un dictateur. Prenons un instant pour faire la netteté autour de lui. Gros plan. Nous sommes en URSS, à l'ouest de Moscou, dans le district de Kountsevo, entre les murs de ce que tout le monde appelait la Blizhnaya Datcha, la datcha proche, par opposition à toutes les autres que Staline avait fait construire. Dans la salle à manger, la pièce préférée de Staline au rez-de-chaussée, une grande table de 3 mètres de long au bout de laquelle il mange seul quand il n'y a pas d'invité. Un dirigeant représenté partout dans l'espace public, mais presque invisible en chair et en os. Lui qui n'a jamais goûté les bains de foule et ne va pas au contact des masses. Claquemuré derrière les murs de sa datcha, elle aussi presque invisible.
La façade de cette fameuse datcha était peinte en vert kaki, effectivement, pour qu'elle se mêle à la végétation ambiante, de grands pins. C'était en banlieue de Moscou.
Cette datcha, Staline l'aménage au fil du temps, donc il s'y installe au début des années 30. Il fait construire un bâtiment, un seul étage, ensuite il va ajouter un étage. Il y a surtout un grand parc, jardin, avec même un potager, un verger, des pelouses, des fleurs. Il s'investit beaucoup, surtout après la guerre, quand, au fur et à mesure qu'il vieillit et qu'il passe de plus en plus de temps un peu en retrait du Kremlin, mais sans pour autant abandonner le contrôle sur la vie politique soviétique.
Oh, c'est un endroit sombre, pas gai, dénudé.
Thierry Robin, dessinateur et scénariste.
Il dormait sur un canapé, Staline, la plupart du temps. Il changeait de pièce pour assurer sa sécurité. Et son grand plaisir, c'est assez mystérieux, c'était de découper des images dans des magazines d'ouvriers, de petites paysannes, d'un berger avec ses moutons. Et il faisait des montages photographiques, des collages qu'il accrochait au mur. J'ai une photo de ça. Oui, j'ai une photo. On voit ses collages au mur et... Et sa petite paire de ciseaux, son pot de colle, c'est tout à fait étonnant. Hein. Est-ce qu'il était encore sain d'esprit à cette époque? Je ne sais pas. Il est incontrôlable, ce Staline. Mais machiavélique. Le soir, il révélait son vrai visage au cours de ses fameuses réunions et... Combien Khrouchtchev a reçu de tomates écrasées sur le crâne, je ne sais pas, mais ça a dû être épouvantable pour lui. Mais enfin, j'ai aucune pitié non plus pour Khrouchtchev.
Side 2, track 2 of tape number 1, continued.
Cette atmosphère a été très bien décrite par Bulganin. Un jour, on avait déjeuné chez Staline, et en sortant, Bulganin a dit... Tu pars dîner chez un ami, mais tu ne sais pas si tu reviendras chez toi ou si on t'emmènera en prison. Il était bien éméché quand il a dit ça. Mais il a exprimé avec justesse un sentiment que beaucoup d'entre nous partageaient, voire tous. Il y avait cette atmosphère d'incertitude.
Les descriptions qu'on a, c'est une espèce de fête un peu barbare qui se passe dans sa datcha à la fin de son règne. Apparemment, malgré tout, Staline a beaucoup de prudence à ne pas trop boire. Il fait boire ses invités, mais lui reste relativement sobre pour contrôler la situation et contrôler son entourage. Pour assurer son pouvoir, il déstabilise les uns après les autres ses ministres et il va favoriser d'autres. On est dans des scènes féliniennes à ce moment-là.
Les membres de ce qui s'appelait le comité terrestre sont Beria, Malenkov, Khrushchev, Mikoyan, Bulganin, Kaganovich, Vorochilov et Molotov. Je crois que c'est ces huit-là.
Alors ce sont ceux qui sont conviés à des dîners dans cette datcha qui font vraiment partie du cercle le plus proche, le resserré autour de Staline. En fait, il n'y a pas de nom officiel pour les désigner. C'est un cercle restreint qui peut être à tout moment reconfiguré, redéfini par Staline. Et pour eux, donc, participer à ces dîners, qui souvent se prolongent jusqu'à très tard, c'est même pas très tard, c'est très tôt le lendemain, donc ça fait partie de leurs obligations, de leur travail en tant que proches collaborateurs de Staline. Et ces dîners sont un peu à l'image de ce que représente comme menace le fait d'être un proche collaborateur de Staline, puisque rester là à manger, à boire souvent en s'exécutant face à Staline qui donne l'ordre de boire, avec souvent des jeux très dangereux et très pernicieux qui sont lancés par Staline. Voilà, un peu dans un échange de blagues où on ne sait jamais où s'arrête la plaisanterie et où commence peut-être un règlement de compte. Et donc, ça nous permet de comprendre que tous ces lieux, c'est bien plus qu'un domicile ou un lieu de travail. C'est un lieu à l'intérieur duquel se construit et s'exerce le pouvoir stalinien.
На заседание, чтобы какой-то отчёт был, то что в правительствах, что полагается в государстве, что такой-то вопрос, чтобы он обсуждался.
Il n'y avait plus de réunion, plus de compte-rendu, plus de débat, ni au Politburo, ni au présidium du comité central, ni au conseil des ministres, pas de discussion collective. Ce qui est nécessaire pour diriger démocratiquement le parti et le pays. Rien de tout cela. On ne faisait que se réunir chez Staline, on l'écoutait, et il donnait vite fait en passant des directives. Parfois, il écoutait ce que disaient les autres, si ça lui plaisait, il approuvait, sinon, il grognait. Il ne demandait pas l'avis d'autrui. C'est lui qui donnait des formulations notées comme décisions du comité central ou du conseil des ministres et ensuite publiées. Ça s'appelle une direction personnelle. C'est de l'arbitraire.
On a très tôt qualifié le pouvoir politique construit en URSS comme un parti-État, donc avec ces deux pyramides du pouvoir, celle qui correspond aux institutions soviétiques et d'autre part la pyramide du parti qui est censée se fonder sur l'existence des milliers ou des dizaines de milliers des cellules du parti avec leurs secrétaires, etc. Et puis ensuite, on construit à tous les niveaux, districts, villes, régions, républiques. Donc se construit cette pyramide qui est couronnée par le comité central du parti. Sa taille peut varier, mais ça peut inclure plusieurs centaines de personnes et qui, à son tour, est couronnée par un bureau politique ou politburo, ça correspond à politическое bureau, mais en russe on l'appelle toujours par un politburo, bureau politique qui concentre véritablement le pouvoir, qui donc est composé selon l'époque d'une douzaine, quinzaine de membres, dont l'accès est complètement verrouillé et contrôlé donc par Staline à partir du moment où il a vraiment concentré le pouvoir dans ses mains. Et alors, ce qu'on observe à l'approche de la mort de Staline, c'est même encore une tendance à délaisser même des structures qui étaient déjà réduites au profit de cercles encore plus réduits et parfaitement informels, donc de ceux qui sont conviés à la datcha de Staline. En fait, il n'y a pas de nom officiel pour les désigner. C'est un cercle restreint qui peut être à tout moment reconfiguré, redéfini par Staline.
Il supportait mal de rester seul. Il dormait, et quand il se réveillait, il convoquait immédiatement quelqu'un pour l'inviter à voir un film, ou bien lui parler des heures d'une affaire qui pouvait être réglée en 2 minutes. Tout ça pour être avec quelqu'un. Il était accablé par la solitude. Et il avait peur de la solitude.
D'un côté, vous avez un Dieu vivant, omniscient, omnipotent, impitoyable et admirable, et tout ce que vous voulez. Vous avez la figure ultime du pouvoir, vous avez les affiches, les statues, les cérémonies, etc. Ça, c'est ce que voit le monde. En tout cas, le monde soviétique, mais une large partie du monde. D'un autre côté, vous avez un homme qui doit avoir, je crois, 73 ans à l'époque, qui met plus les pieds au Kremlin plus de 3 jours par semaine, enfin qui est pas très assidu, il fait venir son travail à la maison parce que ça le fatigue de se déplacer, tout en ordonnant la mort de telles listes qui sont ramenées par Beria, et etc. Et donc on a ce vieil homme dans sa dancha à Kountsevo, donc, et détail paranoïaque que j'adore, le parc il est partiellement miné.
This is side 2, track 1, tape number 3.
Avant sa mort, les dernières années, Staline avait, semble-t-il, de plus en plus peur. Par exemple, quand on quittait le Kremlin pour aller à la datcha après la projection des films, on suivait des rues et des ruelles au lieu de prendre le chemin qui va tout droit du Kremlin à la rivière Moskova. Il ne disait même pas à sa garde rapprochée quel itinéraire il prendrait. Il en avait plusieurs. Et il en changeait souvent. Pour quelle raison? Par méfiance et par peur. Peur pour sa vie.
Dans ce très long monologue sur bande, les souvenirs de Nikita Khrouchtchev, numérisés par un opérateur manifestement épuisé, il y a parfois des plages vides. Certaines bandes ont été dupliquées, manipulées, et certains passages coupés par Khrouchtchev lui-même par mesure d'autocensure. Il raconte, certes, mais pas tout.
Au repas, il ne pouvait manger aucun plat si quelqu'un ne l'avait pas goûté devant lui. Je me souviens de ses paroles. Je ne fais confiance à personne. Je suis un homme perdu. Je ne fais même pas confiance à moi-même.
Ce qui m'est arrivé de curieux concernant la mort de Staline, c'est que je suis allé chercher de la documentation pour un récit d'espionnage. Pour un thriller politique à la John le Carré. Je cherchais un truc du genre « La lettre du Kremlin ». Et je suis littéralement tombé sur Docteur Follamour. C'était pas du tout ce que j'attendais. Moi, je voyais des agents du KGB, des complots, des pistolets avec des silencieux, des écoutes, des gens sérieux qui font un travail extrêmement paranoïaque et ainsi de suite. Et quand je dis Docteur Follamour, c'est parce que je suis littéralement tombé sur une crise politique majeure, donc, mais qui est géré par une bande d'assassins, de fous furieux, de fanatiques, d'escrocs, qui tous ne savent rien d'autre que survivre au lendemain. Il y avait beaucoup plus un enchaînement d'événements absurdes que n'importe quel complot ou matière à thriller paranoïaque, dont il a fallu accepter de rire jaune devant l'espèce d'horreur arbitraire de ce qui était raconté.
Если бы Сталин
Si Staline avait été un homme normal, il aurait ignoré toutes ces lettres de dénonciation écrites par des gens anormaux ou incompétents. Mais il était très sensible à ce genre de choses. C'est lui qui a introduit dans la conscience de chacun qu'on était entouré d'ennemis, qu'il fallait voir en chacun un ennemi à démasquer, être vigilant. Sa formule, 10% de probabilité suffisent pour accuser et condamner. Mais qui peut vérifier et calculer ce pourcentage? Est-il calculable? Inciter les gens à se conduire ainsi avec leurs collègues, c'est comme se laisser enfermer dans une maison de fous. Chacun doit démasquer son propre ami. Et c'est ce qui s'est passé.
Nous sommes au summum de la paranoïa dans une datcha de fous, comme est touché par la folie le pays tout entier. L'URSS s'étend sur plus de 22 millions de kilomètres carrés et compte quelque 190 millions d'habitants. Après la Seconde Guerre mondiale, le goulag est à son apogée et ses camps maillent le territoire. 20 millions de personnes ont été emprisonnées entre 1929 et 1954 et 4 millions probablement sont mortes. Mais revenons à notre récit. Après les collaborateurs et les médecins, on appelle les enfants de Staline à son chevet.
Une foule de gens se pressait dans la grande salle où était couché mon père. Des médecins inconnus qui voyaient le malade pour la première fois. L'académicien Vladimir Vinogradov, qui avait longtemps suivi mon père, était alors en prison.
Svetlana Alilouyeva, qui porte le nom de famille de sa mère Nadejda, est née en 1926 et elle est la plus jeune des trois enfants légitimes de Joseph Staline, sœur de Yakov et Vassili.
Ils appliquaient des sangsues sur sa nuque et sur son cou, faisaient des électrocardiogrammes, prenaient des radios de ses poumons. Une infirmière lui faisait sans cesse des piqûres. L'un des médecins notait sur un carnet la progression de la maladie. Dans une petite salle voisine, le conseil médical délibérait en permanence. Mon père était sans connaissance, ainsi que le constatèrent les médecins. Assise près de lui, je lui tenais la main. Il me regardait, mais certainement sans me voir.
Les médecins qui ont été convoqués, par prudence, pour se prévenir d'être condamnés de négligence, vont noter minute par minute ce qui se passe. Donc on n'a aucun doute sur le déroulé et la durée de l'agonie de Staline. Il peut y avoir des thèses complotistes, on a assassiné Staline, mais non, la vérité est assez simple.
Peu après, pendant que les médecins prenaient un échantillon de ses urines, j'ai remarqué qu'il tentait de se couvrir. Sans doute ressentait-il une certaine gêne. Une fois durant la journée, il a repris nettement conscience, et bien qu'il ne puisse toujours pas parler, il a commencé à faire jouer les muscles de sa face. On lui a donné un peu de soupe et de thé léger à la cuillère.
Et il y a eu ce moment fou dont ils s'attendaient tous à ce qu'il meure, et puis il reprend conscience. Et alors là, c'est le concours de louanges. Ils disent pas Dieu soit loué, mais c'est vraiment, c'est un miracle, oh le miracle, etc.
Il a soulevé la main gauche et a amorcé un geste pour désigner quelque chose sur le mur.
Il a montré un tableau avec une jeune fille qui donnait le biberon à un agneau, je crois.
Du doigt qui est encore valide, il va pointer une image qui est sur un mur, une image d'une petite bergère, justement. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc ils en ont déduit tout un tas de métaphores, du genre « Staline, c'est la jeune fille et nous sommes l'agneau », un truc assez absurde.
Alors ça va être interprété de mille façons par son entourage. Mais là aussi, ça reste mystérieux. C'est peut-être aussi le geste d'amourant. Ça n'a peut-être pas de sens.
L'agonie a été terrible. Agonia была ужасной. Il étouffait aux yeux de tous. Soudain, À la dernière minute, il a ouvert les yeux et a enveloppé toute l'assistance du regard. Un regard insensé, furieux, rempli d'effroi devant la mort et devant les médecins inconnus qui se penchaient sur lui. Ce regard a fait le tour de l'assemblée en une fraction de minute. Et alors, dans un geste effrayant que je ne comprends pas encore aujourd'hui et que je ne peux oublier, il a levé la main gauche en l'air, la seule qu'il pouvait encore bouger. Désignait-il par là quelque chose là-haut, ou bien nous menaçait-il tous ?
Personne ne sait s'il désigne un successeur ou quelqu'un qui veut voir exécuter.
Aussitôt après, dans un ultime sursaut, l'âme a quitté le corps.
La main s'écroule et il est mort.
Puis sa main retombe et ça y est, il est mort.
Un homme immense a surgi de nulle part et a commencé à lui faire un massage cardiaque. Je lui ai crié « Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne vas pas lui rendre la vie, il est déjà mort !» Ils ont cessé leur tentative pour le ressusciter. C'était vrai. Staline était mort.
Svetlana aurait, selon la version transmise à Sergo Beria par son père Lavrenti, qui fut longtemps ministre de l'Intérieur, enjolivé et dramatisé la fin de Staline. Non, il n'y aurait pas eu de dernier sursaut de conscience, de doigts pointés. Oui, les médecins auraient été appelés immédiatement et tout aurait été fait dans le plus grand calme pour sauver Staline. Non, aucun membre du Politburo n'aurait versé une larme, tout occupé à régler la succession dans une pièce voisine. Ce que semble souligner cette divergence, lorsque ceux qui témoignent sont impliqués dans les rouages du pouvoir depuis des décennies, c'est que chacun raconte peut-être sa propre version des faits, celle qui le protégera ou lui permettra de porter un fardeau moins lourd. Bien sûr, il n'est pas rare que la vie et la mort des chefs d'État fassent l'objet de versions multiples. Mais, dans le cas de Staline, cette démultiplication est intrinsèque au régime et au personnage. Vouloir le raconter, c'est se perdre dans des faux-semblants, des histoires à triple fond, déambuler dans un labyrinthe de miroirs où les reflets se démultiplient à l'infini et où l'original se dérobe.
La mort de Staline, ça signifie aussi une espèce de vengeance divine, un coup du sort qui va faire que il va être la première victime de tout un tas de décisions qu'il a mis en ordre sur le fait que on ne puisse pas le déranger, qu'on n'ouvre pas sa porte, derrière laquelle il va agoniser pendant toute une nuit. Il ne va pas être soigné par les médecins compétents puisqu'il a mis en place le complot des blouses blanches qui vont faire que il n'y a pas de médecin disponible pour venir le soigner à temps. Tout un tas de décisions comme ça qui vont sceller son sort. C'est aussi une fin qu'il mérite. Après tant de cruauté lui-même, il est victime de ses décisions de dictateur. La boucle se boucle.
On a quand même l'impression que son entourage ne s'est pas précipité pour faire l'impossible pour le sauver.
Staline s'apprêtait à faire une grande purge.
Françoise Thom, historienne.
Il l'avait annoncé à la fin de l'année 52 et ils étaient tous sur un siège éjectable, hein, tous les membres du Politburo, donc ils étaient tous motivés pour que Staline disparaisse le plus vite possible.
Les dernières années précédant la mort de Staline sont effectivement marquées par un déchaînement répressif. Entre autres, il renvoie au goulag de nombreuses personnes qui avaient été libérées au terme de leur peine au cours des années précédentes. Il fait arrêter la femme de son fidèle secrétaire personnel, Poskrebichev. Elle sera fusillée en août 1952 et lui, limogé en novembre de la même année. Ainsi que celle du vice-président du Conseil des ministres, Vyacheslav Molotov.
La femme de Molotov, Polina Jemchujina, a été accusée de connivence avec l'ennemi et accusée de soutenir des nationalistes juifs. Elle était d'origine juive. Mais en réalité, c'est un schéma très simple qui se répétait. La sécurité d'État commençait par arrêter des membres de l'entourage proche, dans le cas présent, des proches de l'épouse de Molotov. Puis ces personnes étaient interrogées, torturées et finissaient par faire des aveux conformes aux besoins de la sécurité d'État, c'est-à-dire de Staline. Donc là, elles ont déclaré que la femme de Molotov menait des activités hostiles et ensuite, ces témoignages ont été présentés au Politburo, y compris à Molotov lui-même. Et Staline pouvait alors dire « Vous voyez, c'est une ennemie, il faut l'arrêter ». Toutes ces affaires se déroulaient selon ce scénario. Un scénario très simple.
À ce moment-là, tout le monde était un peu menacé.
Nino Kirtadze, réalisatrice.
Molotov à cause de sa femme, Beria parce qu'il avait le sentiment qu'il a été exposé à cette histoire de blouse blanche. Enfin, ça se préparait. Les nouvelles purges étaient en route. Donc, ça allait s'abattre sur le pays. Dans l'armée, il y avait des purges. C'était assez classique venant de sa part que chaque fois, il prenait un milieu et soit ça maintenait la terreur. C'était vraiment cette idée, je pense, ben, ça c'est moi qui dis ça, mais cette peur presque religieuse que là, on va venir vous chercher et que voilà, c'est la mort. Ça, il continue à la maintenir même et avant la guerre et après la guerre. Après, les gens disent qu'avec l'âge, il devenait de plus en plus paranoïaque, Staline, et qu'il soupçonnait son cercle proche aussi. Donc, quelque part, sa mort peut-être arrangeait tout le monde. Ça, on ne saura jamais, mais il y a plein de versions ou des légendes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après, il y avait les 11 sacs qui ont été brûlés à toute hâte de notre personnel de Staline. Par sa garde rapprochée, parce que peut-être qu'il pouvait y avoir des notes qui les concernaient eux, on ne savait pas. Ses camarades, Beria, Molotov, Malenkov, Khrushchev, Zaganovitch et ainsi de suite, parce que eux, ils savaient tellement le climat était fou en termes de soupçons, de complots, de qui va être le suivant, qui peut utiliser quoi contre qui. Bon, on dit Staline, mais il y avait quand même pas mal de gens qui écrivaient les uns sur les autres, soit pour avoir une promotion, soit pour avoir... Ça a été encouragé. Et donc, eux, du coup, évidemment, ils voulaient éliminer tous les documents compromettants, parce qu'au début, personne ne pouvait s'approcher du corps de Staline, sauf eux. Donc, toutes les précautions étaient prises à ce que un d'eux ne s'empare pas de quelques documents qui pouvaient être utilisés contre les autres. Tout est comme ça autour de ce personnage, toujours. Tout est démesuré, tout est plein de complots, des choses souterraines qui se passent. Rien n'est simple, en fait. Même quand on parle de son rôle, ses manies, est-ce qu'il a été éduqué, est-ce qu'il n'a pas été éduqué, il y a partout, on trouve... des mythes, et c'est presque une mythologie qui entoure Staline.
On a éteint les lumières à demi, les médecins sont partis, ne laissant dans la pièce qu'une infirmière, une vieille garde malade de l'hôpital du Kremlin que je connaissais depuis longtemps. Elle a rangé sans bruit quelque chose sur l'immense table dressée au milieu de la pièce. C'était la salle des festins, la salle où siégeait le cercle étroit du bureau politique. Le plancher était recouvert d'un immense tapis, Le long des murs s'alignaient des fauteuils et des divans. Dans un angle, une cheminée. Mon père avait toujours aimé le feu l'hiver. Dans un autre angle, un pick-up avec des disques. Mon père avait une belle collection de chansons populaires russes, géorgiennes et ukrainiennes. Il n'admettait aucune autre musique. C'est dans cette pièce qu'il a passé les dernières années de sa vie, c'est-à-dire près de 20 ans. La garde et les domestiques sont venus lui rendre un dernier hommage. Cuisinier, chauffeur, garde de service, servante, jardinier rentraient lentement, s'approchaient de lui en silence et pleuraient.
Mais après, que fait-on de tout le reste? Que fait-on des affaires personnelles? Que fait-on de... Il faut nettoyer cette datcha par le vide. Et quand on dit nettoyer cette datcha par le vide, on parle des affaires et des gens. C'est-à-dire que toutes les personnes présentes, sauf les membres du Politburo, vont être envoyées au goulag. On les fait monter dans des camions, on les envoie ailleurs. On veut pas les voir, on veut pas qu'ils racontent. Y compris Matryona, la fidèle servante de Staline qui était avec lui depuis des décennies.
On a emporté le corps. Till of Winnesley. Une voiture blanche s'est approchée du portail de la datcha. Tout le monde est sorti. Chacun enlevait son chapeau. Même les gens dans la rue pleuraient.
Et donc, à partir de là, Staline est mort. Il faut organiser ses funérailles. Et puis aussi, il faudrait lui trouver un successeur.
Dézoomons un instant. Plan large. Un successeur, dans quel contexte? À l'aube des années 50, une guerre désormais froide coupe le monde en deux blocs, l'Est et l'Ouest, qui s'affrontent militairement en Corée. L'Union soviétique a procédé à son premier essai nucléaire en août 1949 au Kazakhstan. En Asie, la République populaire de Chine est proclamée le 1er octobre 1949 et Staline rencontre Mao Tse-tung. En Europe, l'Allemagne s'achemine vers une séparation en deux États. Staline est déterminé à accélérer le processus de satellisation des pays du bloc de l'Est communiste. Il orchestre des vagues de purges et des procès politiques en Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, renforçant les digues du bloc comme il renforce son pouvoir vertigineux et solitaire. Mais reprenons notre récit. Le 4 mars, la presse soviétique révèle d'abord que Staline est gravement malade. Sa mort, survenue le 5 mars à 21h50, est annoncée par un communiqué officiel à la radio par le speaker Youri Levitan le 6 mars au petit matin. Le dictateur qui meurt sur son divan est secrétaire général du parti depuis début avril 1922, soit depuis 31 ans, presque jour pour jour.
La traduction que j'avais retrouvée de ce communiqué officiel, c'était « À tous les membres du parti, à tous les travailleurs de l'Union soviétique, le cœur de Joseph Vissarionovitch Staline, compagnon d'armes de Lénine et génial continuateur de son œuvre, guide sagace du parti communiste et du peuple soviétique, a cessé de battre. Le camarade Staline a mis toute sa vie, avec abnégation, au service de la grande cause du communisme. Sa mort est une perte cruelle pour le parti, pour le peuple soviétique, pour les travailleurs du monde entier. En ce jour de tristesse, tous les peuples de notre pays s'unissent encore plus étroitement, en une grande famille fraternelle, sous la direction éprouvée du parti communiste créé par Lénine et Staline. Le nom immortel de Staline vivra toujours dans le cœur du peuple soviétique et de toute l'humanité progressiste. Vive notre puissante patrie socialiste, vive notre héroïque peuple soviétique, vive le grand parti communiste de l'Union soviétique.
Lacha Bakradze, chercheur en littérature et historien.
Es gibt zum Beispiel, kann ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen, was ich als Kind gehört habe.
Je voudrais évoquer une histoire qui m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. L'homme qui nous l'a raconté, à mon père et à moi, était prisonnier au Goulag en 1953. Dans ce camp de Sibérie où ils se trouvaient alors, ils ont remarqué que quelque chose d'inhabituel s'était produit. La direction du camp semblait un peu troublée. On n'avait pas procédé à l'appel matinal des prisonniers. Et le jour suivant, le directeur du camp est venu en personne leur annoncer que Staline était mort. Imaginez, nous sommes au mois de mars, il fait très froid en Sibérie, tout est recouvert de neige. Les prisonniers sont tombés dans la neige et ont commencé à crier et à pleurer. Et cet homme a dit, ça m'a beaucoup impressionné, qu'il était debout dans la neige, il pleurait. Et en même temps, il pensait, mais qu'est-ce que tu fais? Depuis tout ce temps que tu es prisonnier ici, tu ne rêves que d'une chose, c'est que ce salaud meurt. Et maintenant, tu pleures. Cette psychose de masse agissait de la même manière sur tous ceux qui se trouvaient là. Quand bien même leur seule chance de s'en sortir était la mort de ce salaud. Ils pleuraient parce que, durant les dernières décennies, presque 30 ans, l'entièreté de leur existence était articulée autour de la propagande stalinienne. Et ils ne savaient pas ce qui pouvait arriver si le guide suprême venait à mourir. La colonne s'écroule. Et naturellement, il y avait cette peur que l'ordre du monde tout entier ne s'effondre si Staline mourait. C'est la joie qui aurait dû primer. Mais dans cette psychose de masse, ce sont les cris et les pleurs qui sont venus en premier. Et c'est dans un second temps seulement qu'ils ont pu réfléchir à ce qui venait de se produire. Pour notre homme, la mort de Staline a permis qu'il soit libéré de ce camp de mort 3 ans plus tard.
En 1965, Alexandre Solzhenitsyn lit son poème intitulé « 5 mars ».
Où suis-je ? Au 20e ? Ou bien au 13e siècle ? Est-ce un camp de nomades ? Que leurs crânes sont nus ? Yeux bridés, teint bronze et noir. Le lieu dit « Kokterek » apprend la mort du grand mogol. Toi, le seul que j'ai haï, as-tu compté tes péchés? T'es-tu étouffé à ta dernière heure? Démon t'es-tu? Que ressens-tu, sorti du thorax où tu te tenais accroché? Regardez de travers, car je ne me découvre pas. La face noire froissée par les camps. Je me sens soulagé, joyeux. Mais je regrette. Échappé à la vengeance russe, tu nous as eus, Katso. Sur des cabanes en roseaux pendouillent des rubans bigarrés. Et la voix du speaker de la radio feint de trembler. Nous sommes sur la place Rouge, le 9 mars 1953, à 10h50 du matin.
À la tribune du mausolée de Lénine, au pied de l'enceinte du Kremlin, se succèdent les membres du bureau politique, Georgi Malenkov, Vyacheslav Molotov et Lavrenti Beria. Tous trois déplorent la plus douloureuse et irréparable perte, celle d'un grand dirigeant, et en même temps d'une personne infiniment proche, dira même Molotov, dont la femme devait pourtant à Staline son séjour en prison. À 11h53, heure de Moscou, le cercueil entre dans le mausolée. Salve d'honneur tirée par des batteries de défense anti-aérienne, retentissement des sirènes des usines du pays tout entier, hymne soviétique exécuté par un orchestre militaire au dernier coup de midi. Derrière les discours millimétrés et codifiés, la concurrence fait rage pour la succession. Celui qui remportera finalement la mise, en catimini, ce n'est pas Malenkov, l'héritier attendu, ni Beria, qui sera éliminé quelques mois plus tard. C'est un outsider, l'apparemment débonnaire Nikita Khrouchtchev, notre narrateur, relégué quelques 10 ans plus tard dans sa datcha de Petrovo-Dalneïe, seul, avec son enregistreur à bande et son récit troué.
Tape number 9, side 2, track 1, continued.
This is tape number 9, side 2,
tape
track
1. Tape number
3,
side 1, track 1, continued.
Here's where the blank end of side 1, track 1. Tape number 3, side 2, track 1. Tape number 3, side 1, last bit of side 2, track 2. This is tape number 5, side 1. Track 2, continue.
Devenir Staline. Premier épisode, la mort d'un dictateur. Avec Lacha Bakradze, Irma Jajanashvili, Nana Ginoridze, Oleg Klevniuk, Nino Kirtadze, Emilia Kustova, Fabien Nury, Thierry Robin, Françoise Thom et les voix d'Hervé Pierre, Julie Pouillon et Lucie Grunstein. Merci au Centre d'histoire orale de l'Université de Columbia pour les mémoires de Nikita Khrouchtchev qui sont enregistrées sur bande et conservées dans leur phonothèque. À Valérie Kislov pour son travail de recherche dans les archives soviétiques et ses traductions. À Irma Jajanashvili et Irma Inaridze pour les contacts et les traductions en Géorgie, à Nino Kirtadze pour les extraits de ses films et à Régis Janté et Paul Rosenberg. Documentation Anne-Lise Signoret. Documentation musicale Antoine Vuillose. Documentation INA Sophie Enoch. Prise de son Benjamin Thuot, Bruno Mourlan et Cédric Châtelu. Mixage, Manuel Couturier. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Coordination, Christine Bernard. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Devenir Staline, une grande traversée de Marie Chartron, réalisée par Diffie Mariani.